Vous écoutez France Culture.
Terre, le magazine de l'environnement, l'émission de ce matin pourrait s'intituler « Faire bouger les lignes ». Faire bouger les lignes puisqu'on reste encore ce matin sur les questions de déco-construction, d'éco-habitat, d'habiter autrement, avec cette fois deux invités, Bruno Touvenin qu'on avait rencontré il y a quelques années, à l'époque il animait l'Atelier Blanc au sein d'un réseau, Areso, dans le sud-ouest, et il s'intéressait déjà de très très près aux techniques d'éco-construction, mais pas seulement, également aux façons d'habiter ces nouvelles maisons, ces nouveaux logements. Et il avait un projet dont nous reparlerons certainement à Lille Arnay, dans le Gers, c'est cela, Bruno Touvenin. Et puis nous avons également Brigitte Bonello qui est une sorte d'électron libre dans le milieu de l'éco-construction. Brigitte Bonello, vous avez créé il y a quelques années, en 2003 je crois, un centre de formation aux pratiques et aux techniques de l'éco-construction pour former des conseillers en éco-habitat. Je dis que vous êtes un électron libre parce que vous n'êtes pas quelqu'un du sérail, vous êtes quelqu'un qui est arrivé là avec des idées très simples et à mon sens peut-être pas suffisamment répandues dans ce milieu.
Oui, en fait, je suis arrivée dans l'éco-construction avec la toute première idée, c'était de développer l'emploi pour des personnes que je rencontrais à l'époque, puisque j'avais un organisme dans les ressources humaines. Donc, je suis rentrée d'abord dans l'environnement, et puis très vite, je me suis dirigée vers l'éco-construction. Et lorsque j'ai découvert tout ce qui se passait au niveau de l'environnement et toutes les réponses qui existaient, je me suis posé la question. Donc, en fait, si j'ai envie, moi, d'avoir une maison écologique, donc quand je pose des questions, ne serait-ce que pour un poêle à bois, on me dit que c'est trop cher, que c'est pas possible. Si je veux une maison écologique avec des matériaux sains, avec une bonne gestion de l'eau, de l'énergie et du chauffage, j'ai personne. Donc, on se situe en 2004. J'ai personne qui va pouvoir m'apporter des réponses. Donc je me suis dit, il faut créer cette fonction, cette personne qui va pouvoir venir chez moi, pas uniquement pour isoler la maison, mais au-delà pour me parler de l'eau, pour me parler de la végétalisation des toitures, enfin du chauffage au bois, de toutes ces choses dont on ne peut pas me parler encore aujourd'hui.
Ben, on ne pouvait pas vous en parler pour la bonne raison qu'il y avait très peu de gens qui savaient en parler.
Alors, on avait en fait des savoir-faire, mais on va dire qu'ils étaient juxtaposés. On avait, ben, par exemple, Bruno que je connaissais à l'époque, je ne connaissais pas tout de Bruno, mais je savais qu'il travaillait sur des murs en terre chauffant. Je connaissais une autre personne qui travaillait sur les enduits terre, par exemple, une autre personne qui travaillait sur la chaux, d'autres sur le bioclimatisme. Je savais que tous ces savoir-faire existaient et l'idée était de mettre tout ça bout à bout pour construire finalement, on va dire, une solution globale pour la maison.
Une solution globale qui ne soit pas celle d'un technicien, mais plutôt celle de quelqu'un qui serait versé dans toutes les techniques existantes et qui saurait conseiller est-ce qu'il fallait tout de même avoir des connaissances techniques importantes ?
Oui, l'idée était de confier en fait cette mission à des personnes du bâtiment. Au départ, je suis pas dans la construction, je suis dans la rénovation, puisque c'est là qu'il y a le plus de travail, hein, et notamment du bâti ancien.
Mais déjà ça, Brigitte Bonello, c'est pas quelque chose qui était si répandu quand vous avez commencé. Moi, je me souviens que il y avait davantage, ce qui est normal, c'est logique, un élan bien plus important vers la construction de choses neuves, de réalisation. La rénovation a été vécue comme moins satisfaisante, moins prestigieuse, moins désirable.
Oui, mais c'était déjà à l'époque, c'était déjà un souci, puisqu'on savait que c'était là-dessus qu'il y avait le plus d'efforts à faire en termes d'économie d'énergie, et le plus de choses à découvrir aussi, parce que découvrir des solutions pour la construction, c'est, je ne vais pas dire que c'est assez facile, parce que c'est très technique, bien sûr, mais je pense que les choses peuvent évoluer très rapidement. Alors que pour la rénovation, on a un parc immobilier en France extraordinaire, une architecture différente, on doit trouver des solutions personnalisées et à assez singulière parfois pour des maisons qui étaient construites par une personne, hein, qui a construit la maison comme il voulait, sans règles. Donc il fallait trouver des personnes qui puissent observer ces maisons, comment elles avaient été comment elles fonctionnaient, par qui elles avaient été construites, avec quels matériaux, avec quels problèmes aussi que ça pouvait engendrer. Et cette fonction, la fonction de cette personne, c'est d'intervenir sur la maison. En plus des questions énergétiques, aussi sur des réparations, des désordres, des choses qui peuvent justement occasionner des problèmes de santé, comme l'humidité par exemple, trouver les sources d'humidité. Et l'idée était de stopper un petit peu cette surconsommation au niveau de la maison, c'est-à-dire qu'au niveau de l'humidité, on va faire venir une personne qui va s'occuper de l'humidité, qui va rajouter des produits, toujours rajouter des produits, au lieu de trouver finalement une solution à la source.
Alors, il y a évidemment toutes sortes de questions qu'on peut vous poser, mais peut-être si on reste dans le fil chronologique, comment est-ce que vous avez réussi à monter ces cycles de formation ? Avec qui ? Et quelles ont été les premières réactions autour de vous ?
Alors, l'idée première était de réunir toutes ces personnes qui avaient ces savoir-faire. Et je n'avais pas trop le choix à l'époque, je m'étais dit « je vais mettre tous ces savoir-faire bout à bout ». Le problème qui peut se poser, c'est qu'il n'y ait pas de lien entre toutes ces choses-là. Donc ça, c'était vraiment la petite angoisse au niveau de la formation. Mais j'avais une idée, un fil conducteur qui était la maîtrise de l'énergie et une mise en scène écologique. Partant de là, donc j'ai monté une formation. Je me suis formée, bien entendu, hein, pour mettre quand même bout à bout toutes ces choses dans l'ordre. Et puis tous ces formateurs, toutes ces personnes qui ont de grandes connaissances sont venus peut-être par curiosité au début. Ils ont dû se dire « mais qu'est-ce que c'est ça ?» Et ils ont tous accepté de se joindre à la formation. C'est formidable. Et aujourd'hui, ils se sont bien appropriés la formation et continuent à venir. Et ensuite, j'ai présenté la formation au conseil régional. Je suis quelqu'un de très déterminé. Et bon, j'avais quand même construit un projet. J'avais bien étudié quand même ce projet. Et lorsque je l'ai présenté au conseil régional, on m'a presque tout de suite dit oui.
Bon, mais c'est une très belle histoire. Sans heurts, et tout à fait lisse que vous nous racontez là, Brigitte Bonello.
Alors, on va dire que jusqu'à présent, on est un petit peu dans la conception du projet, dans l'engouement, dans la passion, dans le lien avec toutes ces personnes qui vont constituer ce projet, avec un acteur formidable qui a été le conseil régional à ce moment-là. Mais c'est après que les ennuis sont arrivés. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez bien, je ne suis pas une personne du sérail, je suis une personne pleine de convictions et j'étais persuadée qu'il allait y avoir des emplois. Donc en fait, c'est ce qui me tenait, parce que je savais que peut-être mon chemin allait s'arrêter très très vite, puisque je ne suis pas architecte, je ne suis pas du bâtiment, mais je savais que je faisais quelque chose pour des personnes qui n'avaient pas d'emploi, et ça j'en étais vraiment persuadée. Donc j'étais très déterminée et je voulais que ça se fasse. J'ai eu après ça beaucoup beaucoup d'adversité. On m'a même demandé à un moment d'arrêter, on m'a dit que ce n'était pas à moi de faire ça. Alors c'est choquant quand on ne s'y attend pas, parce que ça faisait très longtemps que j'étais à mon compte, hein. J'avais une entreprise, donc je savais mener des affaires, on va dire, hein, avec toujours autant de passion, mais j'arrivais toujours au bout des projets que je menais, toujours vis-à-vis de l'emploi. Et là, il y a eu deux années terriblement difficiles, jusqu'au jour où j'ai voulu fermer. Je me suis dit, je vais fermer parce que c'est plus possible, on devient fou quand on mène des projets de cette envergure. Et le jour où j'ai décidé de fermer, alors j'étais dans ma cuisine, je faisais à manger, il était sans doute midi et demi, je suis rentrée au travail, il était 1h30, et j'ai dit à mon assistante, je ferme Unité Environnement, parce que si je ne ferme pas, je vais continuer, il faut arrêter, ça suffit. Et à ce moment-là, elle me tend une lettre, et je vois Unité Environnement, je dis non, je ne veux pas lire. Elle me dit, bon, on regarde quand même. Et j'ouvre l'enveloppe sur le côté, je ne voulais pas sortir cette lettre. Et puis je vois, nous avons le plaisir de vous inviter. Je dis, ah tiens, il m'invite à une réunion. Et évidemment, le naturel ou la passion reprend le dessus. Je tire la lettre et je vois que j'avais le budget pour la formation. Et mon assistante me dit, comment tu vas faire? J'ai dit, je ne sais pas, mais on va faire.
Vous aviez déjà convaincu vos bailleurs. C'était déjà un vrai succès. Bravo. Restez à trouver des candidats. Parce qu'on vous a dit, c'est pas à vous de le faire, si ce n'est que personne d'autre ne le faisait. C'était tout à fait nouveau ce que vous proposiez. Et je crois que ça reste assez unique en son genre.
ça reste assez complet surtout. Trouver des candidats, pour revenir sur la première question, ça n'a pas été difficile parce que j'avais un véritable fan club. Si j'ai continué pendant 2 années à me battre, c'est parce que chaque fois, et pendant 2 années, c'était vraiment très très difficile, j'avais peut-être 3-4 coups de téléphone dans la journée par des personnes qui connaissaient la formation. Alors grâce au magazine La Maison Écologique qui avait fait un petit article, hein, mais vraiment pendant 2 ans, on saturait au niveau du téléphone, on ne faisait que nous appeler. Donc j'avais envie d'arrêter, mais je me disais vis-à-vis de ces personnes-là, il faut quand même que je continue un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai continué et que je suis arrivée à la formation. Alors cette formation, elle est encore, je pense, un petit peu à part, puisque j'ai des personnes qui viennent de toutes les régions de France. Donc c'est vrai qu'elle répond certainement à des questions auxquelles d'autres formations ne répondent pas. C'est qu'on va retrouver toujours l'idée de départ. Je cherche à former une personne qui va, c'est pas un magicien bien entendu, mais c'est une personne qui va bien comprendre la maison, qui va apporter des solutions sérieuses pour réparer, on va dire, cette maison, mais qui va pouvoir aussi intervenir physiquement sur les chantiers. Parce que si on conseille, bon, c'est très bien, mais qui va faire les travaux après ? Donc c'est pour ça que dans la formation, je recrute des personnes dans le bâtiment qui vont pouvoir faire au moins une partie des travaux et encadrer, si besoin, d'autres corps de métier pour faire les travaux qui vont suivre.
Bruno Touvenin, il se trouve que vous êtes un des formateurs que Brigitte Bonello a recruté, en quelque sorte. Donc, peut-être pourriez-vous nous dire comment vous voyez cette formation qu'elle propose ?
Oui, alors effectivement, elle m'a recruté pour la spécialité des murs chauffants, qui est vraiment un micro morceau de l'éco-construction, mais dont peu de gens parlent. Et j'y suis arrivé avec l'envie d'assurer en tant que technicien, avec beaucoup un langage technique, scientifique et tout ça. Je suis même venu avec un collègue ingénieur, thermicien, tout ça. Et rapidement, en discutant avec Brigitte, je me suis rendu compte que en fait, on pouvait faire mieux, on pouvait faire autre chose que rassurer les gens avec de la technique. Et j'ai commencé à parler d'une autre démarche, qui était celle d'autonomiser les gens dans leur démarche, de leur apprendre à choisir un matériau, d'aller au-delà, de trouver une solution, mais plutôt de se poser les bonnes questions et de chercher en soi. Et je crois que Brigitte a abordé la question de la rénovation. Et c'est vrai que pour moi, l'éco-construction, ça part de regarder où on est. Et quand on est quelque part, il y a toujours quelque chose. Alors que dans le fantasme de la maison écologique neuve, on part de la terre nue.
Qu'est-ce que ça veut dire quand on est quelque part, il y a toujours quelque chose ?
Quand on est sur Terre, en tout cas, et qu'on veut habiter la Terre, il y a déjà du bâti, il y a déjà des gens, il y a déjà des matériaux, il y a tout ça. Et l'éco-construction, pour moi, c'est vraiment construire avec le lieu, quoi. Et la rénovation, pour moi, est primordiale parce qu'on habite tous. L'homme a déjà beaucoup construit sur cette Terre. Et l'idée, c'est déjà d'améliorer ce qu'on a autour de nous. Alors, c'est une amélioration physique, mais c'est aussi une amélioration humaine. Et c'est ce que Brigitte m'a fait comprendre, que dans sa formation, c'était des gens en transformation. Donc, on n'était pas là pour les remplir, mais peut-être plutôt pour faire de la place. Et je travaille plus en posant des questions, en élargissant le champ, et elle me laisse beaucoup de place pour ça. Du coup, j'explore, je leur propose des ateliers où on va questionner un matériau, comment on l'analyse, et puis surtout qu'ils trouvent leur propre réponse. Ce n'est pas moi l'expert, mais dans le groupe, on est souvent une dizaine, il y a plein d'expertises, il y a plein de connaissances, donc c'est plutôt mettre en place un échange entre les stagiaires et après qu'ils s'en nourrissent et qu'ils sachent le reproduire ailleurs.
Ça demande beaucoup de choses, me semble-t-il, en vous écoutant. Je me disais, déjà, ça signifie d'accepter l'héritage, ce qui n'est pas toujours facile. Parce que l'héritage bâti, entre autres, l'héritage bâti récemment, il est extrêmement lourd, on le sait. Il est le contraire de ce qu'on appelle éco-construction. Il est effectivement souvent malsain, Brigitte Bonello le disait. Il est souvent mal conçu, souvent peu accueillant pour les personnes qui y vivent. C'est accepter aussi l'héritage de chaque personne. Puisque vous parliez de personnes en transformation, ce sont des demandeurs d'emploi qui viennent en principe, en général, du bâtiment, j'imagine. Donc, qui ont des notions, des connaissances, des partis pris qui sont assez spécifiques.
Et oui, effectivement, l'héritage. Mais c'est là aussi qu'il y a un travail de déconstruction. Et que l'héritage, soit on peut se mettre complètement en rupture, c'est-à-dire le refuser, avoir même une attitude violente à son égard, soit on peut le transformer. C'est plus la notion de soin, moi je trouve, qui est intéressante. C'est prendre ce qu'il y a là et puis dire bah, je vais mettre la bonne distance avec ce qui ne va pas et puis essayer de soigner doucement ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est déjà une démarche personnelle, justement, par rapport au jugement qu'on a sur un bâti. Et souvent, on dit le béton, ceci, mais en fait, il y a moyen d'utiliser aussi les bons côtés d'un bâti ancien et d'amener juste ce qu'il faut.
Alors là, je serais curieuse que vous me donniez un exemple, parce que vous parlez du béton, par exemple. Comment est-ce qu'on peut... À partir du béton, ou alors on va encore compliquer la chose, un béton qui aurait été isolé avec de l'amiante, par exemple. Je suis dur, hein.
J'ai pas de solution. Non, mais là, effectivement, l'amiante... Alors là, il y a aussi des choses auxquelles qu'il faut refuser, ça c'est clair, on n'est pas obligé de tout accepter. Mais non, l'amiante est clairement... Même si au Canada, ils disent que l'amiante, il n'y a pas de souci, mais non, en France, on s'est prouvé. Non, là, il n'y a pas de solution, il faut s'en débarrasser. Mais après, c'est aussi mesurer ses moyens, et on ne peut pas non plus atteindre directement la maison super naturelle, super saine du premier coup. Il y a peut-être des étapes.
D'accord, mais je vous ai demandé un exemple concret, le béton.
Alors, le problème, il faut déjà analyser c'est quoi le problème avec le béton. Quand il est là, bah, si c'est le jeter, on crée un deuxième problème, donc on va plutôt faire avec. Le béton, c'est souvent, en tout cas dans l'habitat des années 60-70, c'est le bruit. En ayant habité dans des immeubles en béton, donc là, il y a un gros travail d'insonorisation qu'on met en priorité. Voilà. Souvent, le chauffage n'est pas la priorité des gens parce que ce n'est pas eux qui payent directement les charges. Ce sont des charges collectives, donc ils ont du mal à se positionner sur ce sujet. Par contre, le bruit les concerne dans leur quotidien et rend souvent ces habitats invivables, quoi. Donc bah là, il y a des solutions pas trop coûteuses pour insonoriser, mais qui demandent quand même de reprendre les surfaces de l'habitat.
Et votre contact avec les stagiaires ? Je vous disais qu'ils avaient certainement des partis pris et des notions différentes des vôtres.
Alors, effectivement, le plus difficile, c'est avec des gens qui viennent vraiment du bâtiment, qui ont été artisans, donc qui sont déjà moulés, qui ont déjà une expérience et des vérités, des certitudes. Ce sont les stagiaires, ils vont être très difficiles à... Et en plus, il ne faut surtout pas chercher à les convaincre, parce qu'eux-mêmes sont convaincus. Donc, non, je laisse tomber. Et en général, c'est plutôt les autres stagiaires qui vont les faire basculer, en tout cas les aider à changer par leur questionnement, par leur naïveté, des fois, et aussi leur ancrage, parce que... moi, j'ai mes certitudes, mais face à quelqu'un qui a des certitudes, on est en combat. Par contre, quand il y a plusieurs personnes qui doutent et qui mettent fortement en doute des certitudes, bah ça fait basculer petit à petit les convictions.
Ça passe beaucoup par la conversation, l'échange. J'imagine que ça passe d'autant plus par là que vous n'avez pas énormément de murs chauffants à montrer, par exemple. Surtout si vous allez faire vos formations à Anglette. Vous êtes originaire de Toulouse. Je me souviens d'un mur chauffant absolument somptueux que vous m'aviez montré dans un lieu qui servait de répétition à une compagnie théâtrale. C'était effectivement totalement convaincant, c'est-à-dire que rentrer dans le bâtiment remportait la conviction. Mais comment est-ce que vous faites ? Vous repérez tous les murs chauffants aux alentours ?
Alors, c'était une des conditions aussi avec Brigitte pour que j'intervienne, c'était qu'on mette les mains dans la matière. Et que ça, pour moi, ça me paraît indispensable. Les mots, non, ça ne suffit pas. Les photos, non plus. Non, il faut que les gens expérimentent. Et c'est là où ça passe, en fin de compte. Quand les gens ont travaillé la terre, ont installé les tuyaux, là, ils prennent confiance. Ça passe par le corps. D'ailleurs, c'est les autres. En fait, il y a deux publics. Il y a ceux qui ont besoin d'être rassurés intellectuellement. Bon, là, je leur donne de la matière. Mais il y a les silencieux, en général. Et eux, ça marche très bien par le corps, le physique. Et voilà. Et là, le groupe bascule comme ça, petit à petit. Oui.
Proposer comme matière, comme thème. Alors matière, on pense tout de suite à la terre crue, mais en fait non, c'est ma question, Brigitte Bonello, c'est quels sont les thèmes qui sont abordés au cours de ces formations? Elles sont assez longues, elles durent 6 mois, c'est ça?
8 mois.
8 mois.
8 mois. En fait, c'est une formation progressive qui va s'ouvrir d'abord sur les questions de santé dans le bâtiment. Donc dans la santé, on peut inclure le bioclimatisme.
Hein. C'est-à-dire?
Le bioclimatisme, profiter au maximum de la lumière, par exemple. Ensuite, les champs électromagnétiques. Ensuite, les prises de mesure dans une maison pour la qualité de l'air intérieur. Par la suite, on va étudier le bâti ancien, le bâti du XXe siècle, les désordres, les solutions réparatrices dans ce domaine-là. Donc il y a toute une partie théorique qui est assez longue, le bilan thermique, donc tous ces calculs thermiques qui sont assez compliqués. Et ensuite, on va aborder les ateliers. Alors c'est là que les choses se compliquent effectivement, parce que comme le dit Bruno, on a vraiment besoin de toucher hein, ces matériaux. Donc on va apprendre à travailler le matériau de terre, qui est un matériau de plus en plus utile, reconnu en tout cas comme utile, au moins pour les maisons en bois. On va travailler avec la chaux, on va travailler sur des enduits correcteurs chaux-chanvre pour le bâti ancien. Voilà, on va travailler tout un tas de matériaux, on va travailler aussi sur le mur en terre chauffant. C'est vrai qu'au début, j'avais introduit tout ça dans la formation sans connaître hein, vraiment tous ces matériaux, mais je me disais, ça doit être important, c'est tellement attirant que ça va être important, c'est pas possible que ça ne le soit pas. Et c'est toujours resté, j'ai rien changé dans la formation, je l'ai juste amélioré en fait et complété au fur et à mesure. Donc le souci, effectivement, c'est de trouver des ateliers, des lieux où on peut faire tout ça. Donc on nous prête des murs. Je ne savais pas que dans ma vie, j'allais chercher des murs. Mais là, je suis en recherche de murs constamment, où on m'autorise à mettre des plâtrés de terre voilà, sur un mur. Alors on va tout défaire après. Et voilà, ça c'est vraiment la recherche la plus difficile au sein de la formation. Parce qu'il faut à la fois réfléchir et il faut faire. C'est ce que j'appelle la main pensante.
En vous écoutant, je me pose la question de la marge de manœuvre, Brigitte Bonello, parce que vous nous avez dit rénovation, vous nous avez parlé d'un certain nombre de techniques, vous avez parlé de la terre, j'ai titillé tout à l'heure Bruno Touvenin sur le béton et l'amiante. Si on revient sur cette question d'héritage que j'ai posée tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas répondu, quelle marge de manœuvre est-ce que vous avez par rapport à des problèmes dont on sait qu'ils sont extrêmement répandus, les problèmes thermiques en particulier, ou alors les problèmes d'humidité, par exemple dans des appartements qui ont été mal conçus ou construits avec des matériaux peu respirants, peu poreux.
Alors, je dirais qu'au début, quand j'ai conçu la formation, la marge de manœuvre était faible. Aujourd'hui, elle augmente considérablement quand même. Hein. Par contre, alors on va dire que pour une maison... Pour une maison, on a pas mal de solutions. Là où on a moins de possibilités, c'est au niveau urbain. Dans des grandes villes, on ne peut pas forcément isoler par l'extérieur parce qu'on a des bâtis anciens avec des façades qu'il faut conserver. Donc la marge de manœuvre, effectivement, est très faible. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut insister, justement, et développer davantage la formation, faire venir des personnes qui ont de véritables connaissances là-dessus et faire le point entre toutes ces formations pour déjà... que les personnes qui habitent ces appartements sachent déjà qu'il y a des choses à faire et ne commencent pas des travaux. Parce que si on commence des travaux qui occasionnent plus d'humidité, si on ferme davantage ces appartements, on va occasionner des désordres de l'humidité. Et après, il faudra tout refaire. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à la stratégie qu'on va adopter. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'impératif, c'est vraiment de se diriger vers les villes et d'informer un petit peu sur ce qui va arriver prochainement, sur la façon dont on va pouvoir aborder la rénovation dans les appartements en ville. Pour que ça puisse se faire aussi petit à petit, parce que tout le monde n'a pas le budget pour rénover du jour au lendemain et avoir un appartement merveilleusement isolé.
Il y a évidemment la question du budget, mais il y a aussi celle de la sensibilité. On a parlé de la sensibilité des stagiaires. Vous nous avez dit que le Conseil régional vous avait suivi très rapidement, donc on sent qu'il y a effectivement un intérêt, une prise de conscience. Est-ce que maintenant, vos stagiaires trouvent à se placer? Est-ce qu'il y a du côté du public une demande?
Alors la demande, il faut encore la susciter. On parle beaucoup plus de construction, vous voyez, de construction BBC par exemple.
BBC, bâtiment basse consommation.
Oui. que de rénovation. Pourtant, la rénovation, c'est vraiment quelque chose de très important. On dit que c'est important, mais on ne donne pas encore les moyens, je crois, aux personnes de comprendre par où il faut commencer. C'est-à-dire, ma petite question du début, comment je fais pour transformer ma maison en maison écologique, on n'y a pas vraiment répondu encore. Donc je forme des personnes qui peuvent répondre à ces questions, qui n'ont aucun problème pour trouver un travail. Donc c'était quand même ma préoccupation. Donc peu importe hein, où ils vont trouver un emploi, dans la mesure où ils trouvent un emploi qui est en lien avec cette formation. Donc on a toutes sortes de métiers à l'issue de la formation. Et bien sûr, il y a un très bon taux d'emploi à la fin de la formation, puisque ces personnes sont venues, sont volontaires. Et je me suis assurée auparavant qu'elles avaient vraiment envie de travailler dans ce domaine. Donc elles vont trouver des emplois... Soit ben, l'architecte redevient architecte, le conducteur de travaux redevient conducteur de travaux, mais dans un domaine où ils seront vraiment très spécialisés et ils vont apporter ces compétences à d'autres entreprises. Ce qu'on a de plus en plus à l'issue de la formation, et ça me fait beaucoup plaisir, ce sont des personnes qui sont recrutées pour la question de la maîtrise de l'énergie au sein du bâti ancien. Vous voyez, donc on est vraiment sur des questions très très complexes, ce qui veut dire que ces personnes ont quand même la chance d'avoir de bons formateurs qui les forment bien à ces questions très complexes du bâti ancien.
Alors, j'avais proposé en titre de cette émission « Faire bouger les lignes ». Et là, on sent bien, effectivement, que ce type de formation est en train de faire bouger les lignes, puisque vous pensez même à l'avenir, vous pensez au devenir de l'éco-construction, des métiers, de la réflexion sur toutes les façons de faire. Il y a un autre domaine qui est tout aussi important et dont on parle tout aussi peu, ou qui en tout cas en France reste un domaine assez, on va dire, frileux, Bruno Touvenin, c'est celui du habiter autrement. Ça, c'est une question sur laquelle vous penchez depuis de nombreuses années, pas toujours avec bonheur. Je dirais même que parfois, ça suscite chez vous une certaine mélancolie.
Oui, effectivement. Mais en même temps, les échecs sont souvent des bonnes expériences, en tout cas quand on en tire les conclusions. Et donc, on avait parlé déjà de l'île Arnée, donc ce projet dans le Gers. Donc, à l'époque où j'étais en plein dedans, tout était dans l'euphorie.
Vous allez nous rappeler de quoi il s'agissait ?
Alors, c'était un quartier de village en éco-construction dans un petit village du Gers. L'idée étant de créer sur 2,5 hectares un ensemble d'habitations, mais en même temps lié à des activités humaines, professionnelles et culturelles. En tout cas, c'était un projet global, je dirais, pour ce quartier. Simplement, on est allé assez loin dans la démarche. Il y a eu une entreprise, en tout cas un organisme de formation a été créé, des activités culturelles aussi. Des futurs habitants, en tout cas, ont travaillé sur la conception complète du quartier jusqu'au point de déposer et d'obtenir le permis de lotir. Mais au moment où il a fallu acheter les terrains... Et ben là, il n'y avait plus assez de monde et voilà, il n'y avait pas les sous pour passer à l'acte. Et ça, voilà un peu un des soucis que je rencontre dans ce milieu de ce que moi, en tout cas, j'appelle l'habitat groupé. C'est qu'au moment de passer à l'acte, il y a moins de monde. Il y a un très fort engouement pour la démarche, pour le rêve, pour... déjà ce vivre ensemble qu'on appelle la réunionnite, voilà, avec des activités sympathiques qui peuvent être travailler sur la communication, faire à manger ensemble, des petits ateliers, des petits chantiers ensemble. Mais au moment où il faut passer à l'acte, c'est-à-dire en France, ce qui bloque en général, c'est payer. Il y a moins d'engagement. Et ça, c'est un gros souci.
Bah, c'est surtout très surprenant. Bruno Touvenin, parce que ça signifie que les gens se lancent dans la démarche sans avoir regardé leur compte en banque ?
Alors, dans le cas particulier de l'île Arnée, en fait, on ne savait pas combien ça coûterait avant d'avoir terminé, parce qu'il fallait avoir fait le plan, avoir défini tout ça pour faire chiffrer, même si on avait fait des simulations auparavant. Mais effectivement, il y a, je pense, des gens qui se lancent dans la démarche. En fait, ils rêvent à quelque chose, mais ils n'ont pas interrogé. D'autre part, il y a eu aussi, pendant les années que ça a duré, ça a pris quand même 4 ans pour aboutir, une pression, une tension au niveau financier, au niveau des banques, qui se sont mis à être beaucoup plus frileuses pour prêter. Et ça va être ça, maintenant, le gros souci, en tout cas des démarches collectives, ça va être le financement. Parce que autant il y a 20 ans ou 25 ans, quand l'habitat groupé ou l'habitat autogéré avait quand même pas mal fonctionné en France, la plupart des gens qui étaient lancés là-dedans étaient des salariés ou des fonctionnaires, des gens qui avaient des revenus, je dirais, assez assurés, donc pas de problème financier. Ils avaient aussi un peu plus de temps pour se laisser là-dessus. Il y avait un côté communautaire, bon, qu'on n'appelle pas comme ça en France, mais de groupe en tout cas, qui était plus fort dans ces époques-là. Voilà, donc la démarche pouvait durer 7 ans et aboutir, et les gens habitent encore dans ces lieux-là. Par contre, aujourd'hui, je dirais que le deuxième souci, c'est ce problème de temps. Déjà, 4 ans dans une démarche, c'est énorme. Je vois les gens, en 4 ans, avaient complètement bouleversé leur vie, tout avait changé. Du coup, au moment où il fallait s'engager, ils n'étaient plus les mêmes, quoi. Donc, c'était plus le même projet pour eux.
J'aimerais peut-être que vous nous expliquiez un peu mieux ce que c'est que cet habitat groupé que vous êtes en train d'évoquer et qui, pour nombre de personnes, reste l'inconnu total.
Alors effectivement, il y a besoin de définition. Alors l'habitat groupé, en tout cas celui qu'on a défini dans le réseau d'habitat groupé en France, en tout cas, c'est une notion de démarche qui part des habitants, c'est-à-dire des gens qui veulent habiter ensemble, mais ils vont porter entièrement cette démarche eux-mêmes. Alors qu'il existe d'autres démarches qui seraient plus venant par le haut, c'est-à-dire une commune ou un organisme bailleur va proposer aux gens un habitat où il y aura des pièces communes et des choses comme ça. C'est deux, il y a une démarche descendante, une démarche ascendante, je dirais. Voilà. Alors souvent on prend comme référence ce qui se passe à l'étranger, vu qu'il existe aujourd'hui énormément de démarches en Hollande, en Belgique, au Danemark, au Québec. À chaque fois, il faut bien regarder de quoi elles sont faites. Et même si elles sont dans des proportions énormes, par exemple au Québec, c'est plus de 50% de l'habitat social qui est sous forme de coopérative d'habitat. Déjà, c'est pas possible en France. Le statut même de coopérative est en cours d'élaboration, mais n'existe pas vraiment. Et dans les autres pays, comme le Danemark, c'est vraiment partie des habitants, quoi. Les éco-villages, en tout cas, où je vais, ou en tout cas, c'est des démarches qui sont parties complètement autonomes. C'est-à-dire un groupe d'habitants qui a décidé, pour le développement durable, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ?
Mais vous dites qu'en France, il y en a eu des exemples. Vous dites même qu'il y a eu des formes d'habitat groupé qui ont plus de 20 ans aujourd'hui.
Oui, alors il y a justement le mouvement de l'habitat autogéré qui a été fort à une certaine époque. Pareil, qui venait des gens qui ont décidé, un petit groupe, de s'y mettre, d'aller interpeller un bailleur s'il fallait un financeur. Mais ce n'est pas lui qui décidait de ce que voulaient les gens. Ça, c'était dans des marches fortes, je dirais, de la part des habitants. Aujourd'hui, c'est, en tout cas dans ce que je connais, des gens que je rencontre, une démarche qui est extrêmement difficile, donc comme je disais, par rapport au calendrier long, au financement où chacun doit s'endetter, alors que les banques aujourd'hui ont du mal déjà à prêter à une personne, donc à un groupe, c'est encore plus dur. Voilà. Et après, il y a un problème culturel.
Voilà, parce que j'allais dire, vous insistez beaucoup sur l'aspect financier. On imagine bien que c'est une difficulté réelle, mais est-ce que véritablement ça s'arrête là ?
Alors justement, j'ai un exemple intéressant parce que dans la ville où j'habitais pendant un moment, c'était à Ramonville à côté de Toulouse, il y avait un habitat autogéré qui avait été créé il y a 20 ans qui s'appelle le hameau Manche-Pomme. Mais c'est alors des gens qui se sont petit à petit assagis et s'installaient confortablement dans leur beau quartier et tout ça.
Donc, parce qu'au départ, c'était des tentes et des caravanes ?
Non, ils ont construit des belles maisons en ossature bois avec un bailleur social qui les a aidés en tout cas dans le financement. Et alors, il est resté quand même un noyau d'irréductible qui a dit « Bon, c'est sympa ce qu'on a fait, mais maintenant on aimerait bien passer à une autre dimension. Aujourd'hui, pour les jeunes, on a des grandes maisons mais qui se vident, maintenant vieillies. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accueillir des nouvelles familles ?» Et ils ont repéré quelques terrains autour et se sont dit « si on reproduisait cette démarche aujourd'hui pour ces jeunes familles ?» Et là, ils se sont rendus compte que le contexte n'était pas du tout le même aujourd'hui. Déjà, ils étaient moins nombreux pour porter ça. Et ils ont eu une démarche qui n'était pas la même qu'auparavant. Ils se sont dit, en fin de compte, pour intéresser la collectivité, c'est-à-dire pour avoir l'accès à ce foncier, pour peut-être obtenir des financements, il faut qu'on soit des vrais acteurs de ce terrain, qu'on ne soit pas juste des consommateurs d'espace, ce n'est pas qu'une maison qu'on veut. Ce qu'on veut montrer, c'est que l'habitat groupé porte des valeurs de vie sociale, et que cette vie sociale n'est pas uniquement destinée à notre petit groupe. Sinon, quelle est la plus-value pour la ville ? Rien, à part faire un ghetto de privilégiés. Et ça, spontanément, c'est-à-dire qu'ils le faisaient depuis des années, ils ont créé une association qui fait de l'animation sur le quartier, qui permet aux gens déjà d'expérimenter le vivre et le faire ensemble. Ils font des voyages, ils organisent des marchés, des groupements d'achat, des choses comme ça. Et du coup, depuis des années, ils vivent des choses ensemble, et ils sont créés leur culture du vivre ensemble. Et l'habitat est venu de là. Tout d'un coup, ils se disent, il y a des terrains qui se libèrent, allez, on va faire un groupe qui va travailler sur l'habitat. Et petit à petit, ils ont travaillé là-dessus, et maintenant, ils ont le permis de construire, ils vont créer leur propre construction, mais avec un noyau vraiment de gens très, très soudés.
Et je suis sûre que Brigitte Bonello a remarqué, comme moi, qu'il ne s'est pas agi d'intégrer des familles dans les maisons existantes, mais bien de construire du neuf. Donc là, on n'est pas dans la réorganisation d'un espace existant, parce que vous avez tout de même dit tout à l'heure, Bruno Touvenin, les maisons sont grandes et elles se vident. Donc on va garder des grandes maisons vides et à côté, on va construire de nouvelles grandes maisons qui vont se vider. Brigitte Bonello.
En écoutant Bruno... Alors, je pensais à de nouvelles questions que je me pose, justement, sur le vivre ensemble. Alors, Bruno est vraiment très avancé là-dessus. Il a une ouverture aussi, je crois, sur le Canada, et une grande ouverture d'esprit qui fait qu'il a déjà répondu à toutes ces choses-là. Alors, moi, je me repose un petit peu ces questions. Comment faire pour que tout le monde puisse bénéficier, à un moment donné, de ces idées-là? Comment faire passer l'idée qu'on puisse mieux vivre ensemble? Parce que c'est quand même un gros problème aujourd'hui. Je sais que la Fondation de France a lancé un appel à projet contre la solitude, qui est un véritable fléau. Dans la question du vivre ensemble, elle ne concerne pas uniquement des petits lots de personnes, mais elle nous concerne à tous. On a perdu beaucoup de choses au niveau social. Et aujourd'hui, je vais ramener ça un petit peu au début de notre conversation, sur les questions énergétiques. Maintenant qu'on maîtrise bien ces questions, on va vers des maisons de plus en plus fermées. Cette fermeture, elle est en train de tout envahir. On a aussi cette intimité, ce luxe de l'intimité qui fait qu'aujourd'hui, on bâtit des murs entre les voisins. On va vraiment vers ça, vers la fermeture et vers l'emprisonnement. On est chacun chez soi dans sa tour d'ivoire ou dans sa prison dorée. Et je ne pense pas qu'en fin de compte, on y soit bien. Donc la question du bien-être, que ce soit au niveau de l'habitat groupé, de l'échange ou du bien-être à l'intérieur de la maison de par sa conception, je crois que ça, c'est la prochaine question qu'il faut vraiment, ou c'est la question actuelle qu'il faut se poser. Il faut arriver à faire quelque chose aujourd'hui, parce que tout existe pour qu'on ait des maisons qui privilégient l'échange à l'extérieur et le bien-être à l'intérieur.
Rémi Beauvisage, que nous recevions la semaine dernière, nous parlait de ces maisons qui reçoivent des générations différentes à chaque étage. Les grands-parents au rez-de-chaussée, les parents au premier étage et les jeunes sous les combles. Est-ce que ça serait une des possibilités, une des solutions, Bruno Touvenin? Je vais quand même vous laisser répondre à la question que j'ai posée à Brigitte Bonello, puisque ça concernait ce que vous vous disiez.
Oui, alors ce qu'on appelle l'intergénérationnel, c'est sympathique sur le plan théorique, quoi. Maintenant, c'est ce qui se fait dans les immeubles, normalement. Et en fait, moi, j'ai un peu abandonné la démarche, je dirais, complète de l'habitat groupé pour plus me poser la question, en fait, pourquoi on vient à l'habitat groupé? Ça part de quel manque? Et souvent, c'est un problème de voisinage, de relation à l'autre. On est en manque.
C'est bien ce que dit Brigitte Bonello quand elle parle de la solitude.
Voilà, de cette solitude. Et souvent, justement, due à de l'habitat où tous les gens sont pareils et du coup, se refusent dans leur... parce qu'ils sont semblables. Et alors là, c'est un problème qui dépasse complètement même l'habitat groupé, quoi. Voilà, mais... Alors on peut le résoudre, je dirais, théoriquement, mais après ça peut aussi se faire justement par la diversité du type d'habitat, faire des appartements de différentes dimensions. Par contre, une chose qui est claire, c'est que quand ça part d'un groupe projet, mine de rien, je trouve des groupes projets homogènes. Ça sera un groupe de personnes âgées qui se retrouvent parce qu'elles se ressemblent là-dessus, et c'est normal, c'est humain, on se retrouve entre copains. Pour monter des projets aussi ambitieux, qui demandent autant de courage, de confiance, évidemment, on va aller vers le semblable. Et pour moi, le divers, il ne doit pas venir d'un groupe, mais là, je pense que c'est le rôle du politique, en tout cas le rôle de la ville, de la cité, de travailler sur cette notion de mixité. Et ça, ça serait le boulot des bailleurs, de tout ça. Mais là, ce n'est pas facile pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de soucis à régler. Mais en même temps, c'est là. Moi, je vois une impasse, en tout cas, de la part venant des habitants, quoi.
Est-ce qu'en revanche, vous voyez des pistes du côté des expériences que vous avez suivies à l'étranger ? Vous avez évoqué le Québec, le Danemark.
Alors, au Québec, en fait, les coopératives d'habitants sont plutôt en chute actuellement. Ils ont plutôt des problèmes. Les gens, l'individualisme montant, les gens veulent à nouveau le produit normal de la maison, tout ça. C'est des gens qui ont acquis un certain confort. Les coopératives d'habitants permettent d'avoir un loyer assez faible. Des gens, mine de rien, s'enrichissent. Et au bout d'un moment, ils se disent, tiens, je vais l'habiter ailleurs. Et puis le social, ça a marché un moment. Les enfants ont grandi, ils se disent, en plus, on ne peut pas céder son logement à son enfant là-bas. Il n'y a pas de cession du bail. Donc les gens s'en vont. Par contre, au Danemark, ils n'ont pas du tout la même position, mais ils ont travaillé sur la mixité dès le départ. Mais c'est des démarches beaucoup plus courageuses et venant beaucoup plus des gens. Il y a une vraie démocratie, je dirais. Le politique là-bas rend service aux gens, alors qu'en France, c'est pas tout à fait ce qui se passe, quoi.
Mais est-ce que ça signifierait tout de même, ce que vous venez de nous dire sur le Québec, que le lien social ne serait pas un motif suffisamment fort pour retenir les gens ?
Le lien social, il s'use avec une société qui rabote ça au quotidien. Je pense que même dans l'habitat groupé, les démarches de l'habitat autogéré, les gens se sont assagis d'une certaine façon. Ça, c'est le phénomène global de l'individualisme, sauf les irréductibles militants qui tiennent le coup. Mais ils sont usés aussi. Moi, j'en entends qui n'en peuvent plus, quoi.
Bruno Tounen ne dit pas la même chose que vous. Brigitte Bonello, lui, il parle d'activisme, de militantisme pour vivre en société. Quand vous dites, nous souffrons de solitude, tous autant que nous sommes.
C'est effectivement ma façon de voir. Et je crois même dans la suite du processus, je vois les choses, peut-être pas d'une autre manière, mais sur un angle assez différent, qui est mon angle personnel et qui revient toujours, je reviens toujours à la connaissance, à la transmission de la connaissance. Alors c'est vrai qu'on a tendance à aller vers ce que j'appelle une architecture exclusive, qui ne tient compte que de la technique et qui exclut tous les aspects humains. Parce qu'on a quand même un savoir-faire. Je crois qu'aujourd'hui, on peut créer des maisons agréables, où l'on va bien vivre, mais on n'a pas encore réuni et mis ensemble tous ces savoir-faire, un petit peu comme ce métier, ou cette fonction que j'ai voulu créer au départ. Et là, je me pose beaucoup de questions, comment je fais pour vivre dans une maison agréable où je ne serai pas coupée de mes voisins. Je vais vers du pratique, Donc je me posais cette question jusqu'au jour où j'ai eu la chance d'être mise en relation avec Frans van der Werf, qui est donc un architecte urbaniste néerlandais, qui a vraiment répondu à la question, c'est-à-dire que dans ses constructions ou même sur des projets de rénovation, c'est ce qui est incroyable, parce que sur la rénovation, c'est plus difficile, il va réunir tous ces aspects dont on est en train de parler. Et peut-être une autre petite chose par rapport à ce que disait Bruno, je crois qu'il faut, on essaie de se réunir, on part de personnes à peu près semblables, avec à peu près les mêmes idées pour un projet, c'est très très difficile humainement de partir sur du semblable. Il faut partir du fait qu'on est tous différents et qu'il faut surtout conserver cette différence et la valoriser.
Je me souviens d'un reportage que nous avions fait à l'éco-hameau de Busset, dans le Limousin, où justement ce qui était mis en avant par les habitants, c'était l'hétérogénéité. Ce qui les rendait très heureux, c'était le fait qu'il n'y avait pas deux habitants semblables, par l'âge, par l'origine sociale, par les activités, par le métier, par les goûts. Et ils n'avaient pas l'air d'en souffrir, au contraire. Bruno Tounen.
Oui, mais alors un des ingrédients pour moi majeur, en tout cas dans les démarches collectives, c'est la tolérance. Et alors soit on a peu de tolérance, du coup on vit bien avec des gens qui nous ressemblent, mais pour accepter de vivre avec la différence, ça demande ce niveau-là de tolérance, d'accepter que l'autre va nous bousculer. Et là, il y a un gros, gros boulot personnel, je crois. Et alors certains l'ont fait, c'est naturel. Ils ont voyagé ou dans leur famille, ça se faisait. Mais... c'est une des premières questions que je pose aux gens quand ils se lancent dans la démarche, c'est au fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avec les autres, quelles sont vos relations avec vos voisins, s'ils me disent « Ah, mes voisins, c'est des cons, on ne peut rien faire avec eux », je dis « Bon, est-ce qu'ils sont dans une association, est-ce qu'ils font partie d'une AMAP, dans un groupement d'achat, est-ce que déjà ils sont engagés dans quelque chose ?» Et si effectivement il n'y a rien à ce niveau-là, je dis « il y a peut-être des étapes à parcourir, parce que l'habitat groupé, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qu'il y a de plus dur, moi, je crois. Acheter ensemble à une propriété commune, qui a déjà fait ça, en fait, Moi-même, je ne l'ai jamais fait. Quand il a fallu que je me lance, je me disais, mais attends, c'est tout mon fric, tout un endettement, tout ça, dans un monde hyper matérialiste que le nôtre, cette culture en plus du patrimoine, un patrimoine qu'il faudra, qu'est-ce qu'on va en faire après, acheter dans un habitat groupé, c'est pas évident qu'on va pouvoir le vendre après, alors que l'image qu'on a de la maison aujourd'hui, c'est l'assurance, quoi, d'avoir un toit sur la tête et de le transférer à ses enfants. Donc il y a une confiance à avoir dans l'autre énorme, et ça, c'est pas trop dans notre culture en France. Alors qu'on le retrouve, j'ai parlé du Danemark, à la maternelle, ils apprennent à faire confiance dans l'autre. Alors que moi, à la maternelle et au primaire, j'ai appris à me battre, à être le premier. Et le seul qui avait l'amour du maître ou de la maîtresse, c'était le premier. Et l'autre était un concurrent. Donc, partant de cette culture-là, c'est évident que c'est pas la même chose.
Brigitte Bonello.
Alors c'est là qu'on a beaucoup parlé humain, et c'est vraiment très important, parce que c'est nous les humains qui commandons, qui avons besoin, qui avons des envies, qui avons des passions. Mais c'est là que la technique a toute sa place et tout son rôle. C'est-à-dire, dans ce que je rebondis sur ce que disait Bruno, là il faut le chef d'orchestre, le technicien suprême qui va arriver et qui va faire l'alchimie justement entre toutes ces personnes différentes qui, bien sûr, les gens sont là toujours pour se disputer. Il n'y a pas d'humain sans dispute et sans tous les côtés positifs qui vont avec. Mais il faut, au milieu de tout ça, une personne qui fasse fi de toutes ces choses-là et qui arrive avec ses techniques et ses méthodes pour construire un bâtiment qui va privilégier le lien entre les personnes, mais pas trop non plus. Le lien, c'est échanger, se croiser quand on en a envie. Ce n'est pas quelque chose qu'on va nous imposer non plus. Il y a des personnes qui resteront toujours solitaires. Et ensuite, à l'intérieur de la maison, on aura une maison qui ressemblera à chaque personne, à chaque individu, sans que les autres aient à participer à la création de l'intérieur de ma maison, à mon privé. C'est-à-dire qu'il y a un espace privé qui m'appartient uniquement à moi. Ensuite, il y a un espace collectif que je peux traverser quand j'en ai envie, comme j'en ai envie. Vous voyez, c'est pas non plus un partage imposé, c'est très très difficile de partager. Donc il n'y a que la technique à un moment donné, avec des méthodes et des outils qui va arriver à régler toutes ces choses-là. Et je reviens toujours à Frans van der Werf. Bon, c'est pas la seule personne qui travaille là-dessus, mais il explique très très bien par son travail l'aboutissement de ces projets-là. Il arrive à travailler à l'extérieur de la maison, à l'intérieur de la maison, sur les champs, sur le privé. C'est vraiment une alchimie ce qu'il fait. C'est formidable. Et avec une technique, une technologie fantastique, et tout à fait moderne et très pointue.
Et en tout cas, une réflexion très poussée sur toute la palette qui existe d'espace entre le plus privé et le plus collectif, le plus public. Il y a effectivement pas uniquement dans le dehors, mais il y a aussi tous ces espaces intermédiaires qui sont semi-publics, semi-privés. Je pense à ces petits bancs qu'il met sur les coursives des immeubles qui permettent de s'asseoir juste à côté de chez soi et de voir passer les voisins si on en a envie et pas si on n'en a pas envie. Il y a aussi ces espaces communs qui sont jardinés, dans lesquels on peut être tranquille seul, mais aussi être contente de croiser quelqu'un. Enfin, c'est important d'arriver à décliner de manière beaucoup plus subtile que nous le faisons aujourd'hui ces notions de privé et public. Mais peut-être pour terminer, une dernière question. Comment se fait-il finalement que nous soyons réunis tous les trois pour parler de ça aujourd'hui dans une émission consacrée à l'environnement, et donc plus précisément, comment se fait-il que ça soit ceux qui s'intéressent à l'éco-construction qui s'intéressent aujourd'hui de si près au fait d'habiter ensemble? Brigitte Bonello.
Peut-être que la démarche, enfin, au départ, il y a une question uniquement, c'est pas une question technique, c'est une question humaine qui se pose. On a tous des maisons. Je vais faire une opposition d'ailleurs entre un féminin et masculin, le bâtiment, la maison. Le bâtiment, on va dire que c'est la structure, la maison, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose de défini sur la maison, sur le bien-être, sur la qualité des formes à l'intérieur de la maison, toutes ces choses humaines qui font qu'on va se sentir bien. Et je crois que cette question, elle court tout le long. Quand on parle écologie, on revient toujours au bien-être parce qu'on est confronté à des matériaux qui sont tellement subtils, tellement agréables. On a envie vraiment de vivre dans une maison où on se sent bien. Et une maison où on se sent bien, ce n'est pas une maison qui a été esthétique. Enfin, la maison de personnes qui ont un bon goût ou la maison de personnes qui ont de l'argent, ce n'est pas ça. Il y a une question là qui trotte dans ma tête et j'ai envie de réunir des intervenants pour cette maison.
Bruno Touvenin.
Alors, pourquoi on s'occupe de ça? Moi, j'ai l'impression que l'éco-construction, c'est beaucoup basé sur la démission ou la désobéissance. C'est réinterroger les règles. Et ça, c'est un espoir, justement, par rapport à un bâtiment un peu trop rigide. Voilà, mais pour en revenir tout à l'heure au vivre ensemble, il y a quelque chose que j'ai noté au Québec ou au Danemark, c'est la capacité à s'organiser sans forcément des règles explicites, mais surtout à respecter les règles sans qu'il y ait de pouvoir, en tout cas de sanctions. Et c'est ce que je vois en France, c'est que les groupes nous demandent toujours, ok, on met des règles, mais il faudra des sanctions pour les respecter. Et je pense qu'il y a déjà un gros travail à faire sur ce rapport à la règle pour pouvoir avancer. Parce qu'on peut rêver, on a une capacité de créativité énorme en France, on sait comment ça marche, le vivre ensemble, mais après, c'est est-ce qu'on va le respecter, quoi.
Ça pourrait être un joli mot de la fin, mais est-ce que vous en avez un autre, Brigitte Bonello?
Oui, en fait, on n'a pas prononcé le mot architecte, je pense qu'on a prononcé le mot architecture, il y a des gens formidables parmi les architectes, mais je pense qu'on peut redéfinir un petit peu leur rôle. Et je crois que dans le futur, l'architecte, ça peut être un conseiller, un accompagnateur, mais ça va être surtout un artiste qui va faire prendre forme à un rêve. Et ça, c'est quelque chose de très difficile.
Et avant d'arriver à ce rêve, votre projet de formation ?
Mon projet de formation, donc, c'est de réunir... Donc, je fais venir Frans van der Werf fin octobre à Paris, donc, pour nous parler des constructions ouvertes, l'open building, donc des constructions où on va aménager, où on va amener le client à aménager l'intérieur de son appartement comme il en a envie. Et si quelqu'un vient après, en 2 semaines, on peut avoir tout changé à l'intérieur du bâtiment. Il va parler aussi de la participation, comment est-ce qu'on fait participer les personnes au projet et des outils, des méthodes qu'il utilise, parce que ça c'est très important. Donc il utilise Pattern Language, qui est comme une base de données où on a fait rentrer tout un tas de modèles pour traduire des idées parfois très complexes et très, très saugrenues de particuliers en solutions techniques. Ensuite, j'ai prévu de faire venir Jean-Pierre Oliva les 21, 22, 23 novembre pour parler de la réhabilitation en milieu urbain. Donc, c'est un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est un sujet assez sensible et assez complexe. Et ensuite, je referai venir Frans van der Werf à la communauté d'Emmaüs Paul Escar pour parler de manière plus large de ce sujet, justement, du vivre ensemble et de comment est-ce qu'on peut faire pour harmoniser tout ça avec la technique au milieu, faire le lien entre l'environnement, les usagers et la technique.
Ce que fait déjà la communauté Emmaüs à l'Escarpeau, puisqu'il y a de l'éco-construction, auto-construction par les compagnons d'Emmaüs eux-mêmes.
Avec aussi une dimension sociale et vivre ensemble très développée. C'est un véritable exemple qu'on ira visiter.
Terre à Terre, c'est terminé pour ce matin. Vous savez que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Genepin, Anne Gouzon, réalisation Vincent Abouchard. Bonne semaine à tous.